Laurent Petit-Quillaume, bonjour.
Bonjour Franck, et bonjour Culture Radio.
Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour la 100e de Dance Hold. Je suis très honoré.
Eh ben dis donc, déjà 100
100 émissions effectivement depuis le 29 avril 2005.
Bravo, chapeau, c'est bien de tenir aussi longtemps. C'est pas toujours le cas de certaines émissions.
Merci. Alors, première question, qui est Laurent Petit-Quillaume?
Oh ben, vaste question, parce que je vais pas te résumer depuis la petite enfance. J'ai envie de dire, puisqu'on parle de radio, qu'au départ, je suis un des grands bénéficiaires et des grands chanceux qui a profité de ces fameuses années 80 où on pouvait faire de la radio très simplement, très facilement, parce qu'il y avait cette fameuse bande FM qui s'ouvrait et toutes ces petites radios qui se créaient. Donc j'ai profité de ça, et alors que je n'ambitionnais pas du tout de devenir animateur, c'était pas du tout mon envie, eh bien, je me suis retrouvé avec bonheur dans ce métier, puisque au bout de quelques années de bénévolat, c'est devenu réellement ma profession, et ça l'est encore. Hein. Donc j'ai vraiment été formé sur le tas grâce à la libéralisation de la bande FM. Voilà. Donc j'ai profité de ça, je me suis engouffré dans cette aventure, et ça me passionne toujours autant aujourd'hui. J'aime toujours autant la radio, plus que la télévision, qui s'est ajoutée à mes occupations professionnelles quelques années après. Voilà.
Cette émission Dance Hold est surtout consacrée aux années 90. Qu'est-ce qu'évoque pour vous les années 90?
Alors justement, les années 90, ben là j'étais en pleine explosion de la radio qui m'employait à l'époque, qui était Skyrock. Et mes souvenirs me dirigent vers une ambiance d'abord excellente au niveau de la radio, au niveau de tous les animateurs, et au niveau de la musique, d'une diversité absolument incroyable. Et Skyrock, c'était pas une radio qui se focalisait sur un style de musique. On ouvrait à tous les styles de musique, donc on pouvait très bien passer de Vanessa Paradis à Cure, en revenant sur, je sais pas moi, des choses dance de l'époque, vraiment pure et dure. On n'avait pas un style particulier, donc ça nous a aussi permis de nous ouvrir à plein de musiques à l'époque, en les aimant à peu près toutes. Après, les goûts personnels, on les met de côté hein, quand on est animateur. Donc les années 90, oui, c'est un grand mélange de styles de musique. C'est peut-être moins festif et joyeux que les années 80, mais c'est beaucoup plus culture, je vais dire. Il y a évidemment tout ce mélange, tous ces styles qui se mélangent, et là on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est que les années 90 pour moi, c'est le mélange du rock avec la musique électronique, avec le rap, avec ce qu'on appelait la house ou la dance déjà à l'époque, avec aussi plein de mélanges de sons qui viennent de pays lointains, des pays ou d'Afrique, ou d'Asie, ou d'Espagne, ou d'Amérique latine, et tout ça se mélange. D'ailleurs, puisqu'on parle dance music, il y avait pas mal de titres à l'époque qui étaient influencés par des rythmes un peu ou latins, ou africains, ou d'Afrique du Nord, et tout. Tout ça se mélange, et c'est vraiment une décennie, musicalement parlant, de mélange.
Si je te dis Real to Real, Corona, voilà. Qu'est-ce que ça te dit tout ça?
Ah ça, c'était marrant, parce que moi, bon, évidemment, comme tout le monde dans les années 90, je faisais la fête, hein, comme tout le monde. Et c'est vraiment pour moi les soirées où on a vraiment de la musique pour danser. Même si dans les années 80, il y en avait déjà, et je dirais même plus, la première, parce que toutes ces musiques-là, elles viennent d'où finalement? Elles viennent du funk, elles viennent ensuite de la disco, et ensuite elles viennent avec les années 80, avec tout ce qui est synthé. Ça donne, par exemple, Corona. Corona aurait très bien pu sortir dans les années 80, je pense, et même encore aujourd'hui, avec un petit peu de remix et tout. Hein. Ça serait toujours aussi efficace. Donc c'est un mélange de tout ça, c'est de la musique pour danser, avec des beats assez rapides pour vraiment presque rentrer en transe, et avoir un petit peu la pêche, la banane. Pour vraiment, c'est de la musique de fête. Donc même si j'écoutais pas ça chez moi, j'en demandais lorsque j'allais en boîte le soir, je ne dansais que là-dessus. Donc voilà, c'est synonyme de fête, évidemment, toutes ces musiques. Artistiquement parlant, ça va pas loin. c'est vraiment du basique, du simple, mais au moins c'est efficace.
Justement, comme on parle de ces groupes-là, il y a quelque chose que j'ai remarqué quand même, c'est que justement aujourd'hui, Retweet n'existe plus, Corona n'existe plus. Comment ça se fait?
Ben d'abord parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là n'existaient pas finalement. Parce qu'à ce moment-là, à l'époque, et surtout dans cette période-là, tout le monde s'y met à faire de ce genre de musique, hyper bubblegum, c'est-à-dire qu'on va dans des studios, que ce soit en Italie, en France, évidemment, en Allemagne, particulièrement en Italie, j'ai l'impression. Il y avait une grosse production italienne à l'époque, Spagna, Sabrina, même si c'est un peu avant Sabrina, c'est dans les années 80 Sabrina, c'est 87-88. Non, mais tous ces gens-là, on va dans des studios, ça devient des multinationales du disque fait pour danser, on en édite et on en crée 10 par jour, et c'est les mêmes musiciens, des choristes, des mannequins, des jolies filles, des jolis garçons, sur des musiques qu'on fait au kilomètre et au kilomètre, et ça marche, parce qu'en Angleterre, il y avait l'époque Stockett, Kenny Waterman, c'est à peu près la même chose, hein. On faisait des kilomètres de tubes en studio, on choisissait un petit bonhomme, une petite bonne femme ou un petit groupe sympa, bien représentatif, et vas-y que je te fais danser l'Europe entière. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas pratiquement pas artistes, quoi. Le problème derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas de musiciens vraiment. On fabrique de la musique en studio avec les instruments et les techniques qui arrivent, qui sont hyper, hyper modernes, et on fabrique du tube, du tube, du tube, mais on ne fabrique pas des artistes. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste de ces gens-là ?
Pas grand-chose.
Ben, il n'y en a aucun qui persiste. Il n'y en a aucun qui a fait une vraie... Bon, aussi, peut-être qu'en Angleterre, on parlait de Stockett, Kenny Waterman, il y a encore Kylie Minogue. Mais à l'époque, il y en avait plein, hein, des Kylie Minogue et des Rick Astley, Jason Donovan, tous ces groupes qui venaient d'Allemagne aussi. Franchement, que ce soit d'Angleterre, d'Allemagne, de France, d'Italie, qu'est-ce qui reste de toutes ces stars de la dance? Pas beaucoup, hein.
Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Scooter ressort encore des titres. Il y a Venga Boy aussi qui a ressorti un album récemment. Donc il y en a quand même qui réussissent encore quelques années après à persévérer.
Non, mais alors toi, tu es un spécialiste. Alors est-ce que ces gens-là font quand même autant de tubes qu'à l'époque?
Non, ils n'ont pas autant de succès.
Non, parce que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment bénéficié, la dance a bénéficié des technologies du moment. Comme très souvent d'ailleurs. Hein. On raconte qu'au début des années 80, lorsque le synthétiseur est arrivé, tout le monde pouvait faire de la musique à la maison. Ça a totalement bouleversé le monde de la musique. Il y a plein de groupes qui sont arrivés comme ça. Alors là, je te parle de groupes, par exemple Indochine, Taxi Girl, Élie et Jacquenot, même Étienne Daho, ils ont bénéficié de nouvelles technologies pour faire de la musique. Les musiques synthé, électroniques, les techniques de studio. Et après, ça n'a fait que se perfectionner et d'être de plus en plus facile. Donc on pouvait rentrer dans un studio pratiquement sans musicien, pratiquement sans instrument, je dirais presque sans un chanteur ou une chanteuse, et on pouvait faire un disque, un tube, et faire danser le monde entier. C'est quand même énorme, quoi. Auparavant, ça n'existe pas, ça. Et en plus, on n'a même pas besoin d'aller faire des concerts. Ça aussi, c'est nouveau. Même les artistes de l'époque disco, ils faisaient des concerts. Donna Summer, Imagination, c'était des vrais chanteurs, c'était des vrais performeurs. On leur demandait d'aller sur scène. Tandis que tous nos Corona et compagnie, là, on leur demandait jamais d'aller faire des concerts. Et moi, je sais, je faisais plein de galas à l'époque au Métropolis, par exemple. Vous connaissez le Métropolis? Tous ces gens-là, ils venaient au Métropolis et ils passaient sur scène, mais en playback. Et je me souviens très très bien que dans ces années-là, on faisait une émission avec David Guetta. Je présentais une émission avec David Guetta sur M6, qui était la première mouture de Dance Machine. C'était au Palace. Et David était derrière ses platines, on était en public, c'était dans cette fameuse boîte, le Palace. Et moi, je présentais des groupes sur scène. Et c'était très rigolo parce que c'était que des artistes dance. Hein. Comment s'appelait ce duo incroyable qui venait de Hollande ou d'Allemagne, qui était vachement bien, qui a fait toute une série de tubes dans ces années-là?
C'est pas les Too Limited?
Too Limited, t'as raison. Mais je te jure, tous les gens qu'on faisait passer sur scène, ils étaient tous en playback. Et la plupart, c'était pas eux qui chantaient sur le disque. Hein. Par contre, effectivement, il y avait toujours une jolie fille ou un mec un peu un beau garçon et qui faisait le playback complet. Hein. Il n'y en avait aucun qui chantait en direct.
D'ailleurs, ce qui a provoqué la perte de Too Limited, c'est justement qu'ils avaient changé la fille.
Ah oui.
Et qu'elle chantait avec la voix de l'ancienne.
Oui, je me souviens très bien de ça. Comme quoi, tu vois, c'était vraiment de la musique préfabriquée. Mais bon, le but était de faire danser les gens. Il n'y avait pas plus loin. Il n'y a jamais eu de musique intellectuelle dans la dance. Et bon, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeants. Et même les artistes qui font des tubes au kilomètre et qui font danser les gens, leur demandent de faire de la scène. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les DJ sont très forts là-dessus. Parce que finalement, les DJ, c'est aussi un peu de l'arnaque. Ils font aussi de la musique en studio, avec des instruments. Moi, je le sais, je connais bien David Guetta. Je suis allé dans son studio il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est tout petit, hein. Il a 10 mètres carrés, il a plein d'instruments partout qui sont du chinois pour moi. Et toute la journée, ça fabrique des tubes, hein. Et voilà quoi, c'est. Par contre, on leur demande de faire des spectacles, mais en tant que DJ, alors c'est peut-être moins l'arnaque que cette époque-là.
Tu as évoqué tout à l'heure Dance Machine, alors on explique aux auditeurs, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était une émission qui était retransmise sur M6 et sur Fun Radio.
Oui.
Et il y avait toujours une compilation qui s'appelait Dance Machine qui sortait quelques jours avant ce concert. Alors je sais que tu as animé, on t'a vu des fois sur scène animer Dance Machine. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là?
Nous, on était vraiment tout à fait au début de Dance Machine, d'abord. C'était donc après, c'était Ophélie qui présentait ça, Ophélie Winter. Oui, j'ai dû le faire une fois ou deux, mais pas plus que ça, parce que je me sentais pas à ma place, en fait. Au début, lorsqu'on a démarré cette émission, là, c'était tout à fait au début des années 90, parce que Too Unlimited, les premiers tubes, c'est ça, hein, c'est 90-91. Et il y en avait plein d'autres à l'époque. Il y avait beaucoup de Belges aussi. Et bon, c'était sympa, c'était au Palace, en public, avec David Guetta. Il y avait une Américaine aussi qui présentait un petit peu avec moi. Bon, mais c'était pas encore vraiment une musique qui avait explosé comme elle l'a fait quelques temps plus tard. Ensuite, quand j'ai passé le relais, quand ils ont transformé l'émission et qu'on l'a redécouverte avec Ophélie Winter, j'y suis allé une fois seulement. Alors là, oui, c'était énorme. Et c'était vraiment devenu un phénomène. La dance s'était vraiment rentrée dans les mœurs. C'était vraiment devenu une musique populaire pour tout le monde. Mais je me sentais pas à ma place parce que c'était quand même pas la musique que je préférais écouter dans la journée. Pour danser, oui, le soir, il n'y a aucun problème. En boîte, aucun problème. Par contre, dans la journée, entre nous, non, ça me prenait la tête. Moi, j'étais plus orienté, peut-être un peu plus rock quand même. Même si, même encore aujourd'hui, je préfère la musique pour danser que la musique pour penser et se prendre la tête. Moi, je suis plus vieux que vous, donc que toi et que tes auditeurs sans doute. Donc, pour moi, la musique pour danser la plus forte, c'est le funk de la fin des années 70, c'est les débuts de Prince, c'est Michael Jackson, c'est même la grande période disco, hein, c'est fabuleux, mais c'est des Cool and the Gang, des Earth, Wind and Fire. Les prémices, c'est ça de la musique. De
la vraie musique, quoi.
Ouais, de la vraie musique, on peut dire ça, hein, parce que ces gens-là, ils ont un talent d'auteur, de compositeur, de chanteurs, de musiciens. C'était des grands, et c'est toujours pour la plupart d'ailleurs des grands musiciens. C'est ça le début de la musique pour danser, hein. Enfin, pour nous, parce qu'avant il y avait encore les James Brown et la soul music. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est rigolo, c'est que la dance des années 90, qui est particulièrement efficace quand elle vient d'Italie, ou d'Allemagne, de Belgique, bah finalement ces gens-là ils ont été élevés sûrement en écoutant James Brown, Earth, Wind and Fire et compagnie. Hein.
J'aimerais qu'on évoque une radio chère à mon cœur, dont les auditeurs connaissent, parce que j'en ai souvent parlé, même sans l'avoir connue. C'est la radio Maximum, qui ensuite est devenue M40 et aujourd'hui RTL2. Tu n'as pas travaillé sur cette radio, mais comme tu es dans le monde de la radio, tu l'as connue.
Ah bah oui.
Quel souvenir tu gardes de cette radio Maximum?
Alors, le premier souvenir, quand tu me dis ça, c'est l'autocollant. Voilà, c'est leur couleur. Et puis c'est une radio qui, a, qui finalement n'a pas duré, n'a pas existé longtemps, mais qui a été très importante pour une génération. Parce que finalement, si on réfléchit bien, à l'époque, nous tous, sur nos radios respectives, bon, les radios de l'époque hein, qui marchaient bien, c'était Énergie, Fun Radio, Europe 2, évidemment Skyrock, mais on faisait tous la même chose, pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui nous distinguait? C'était pas la musique, hein. C'était plus le style d'animation, tu vois, les animateurs et tout. Mais musicalement parlant, à l'époque, on faisait tous à peu près la même chose et on jouait, comme on dit, on passait à peu près tous les mêmes disques, voilà. Arrive Maximum, qui d'un seul coup se focalise sur un seul style de musique, la dance. Et boum, 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 toute la journée. Alors sincèrement, nous, on trouvait ça vraiment bidon. On se disait, mais c'est insupportable, Maximum, je peux pas l'écouter plus d'un quart d'heure. Sauf que, bah, y avait toute une génération de gens, et notamment ceux qui aiment faire la fête, et qui avaient peut-être l'âge également pour s'identifier à ce genre de musique, qui avait enfin sa radio, qui avait que ça, et qui n'était pas obligé de se farcir du Mylène Farmer ou du téléphone ou du Indochine pour essayer d'avoir de temps en temps une musique dance. Donc évidemment ça a tout de suite pris. Le problème c'est que je pense que ça a pris sur une catégorie très précise et de d'auditeurs et d'auditrices, et que les autres se sentaient un peu ne s'y retrouvaient pas dans cette radio. Donc c'est dangereux d'être dans un seul et unique créneau, surtout à l'époque, c'était dangereux à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que ces radios là elles vivaient avec la publicité, donc avec le l'audimat, l'audience, et que l'audience de Maximum n'était pas non plus extraordinaire. En revanche, ils étaient très suivis, ils avaient vraiment des fans, et les animateurs étaient vraiment des stars pour ces gens là donc quand ça s'est terminé, je m'en souviens très bien, il y a eu des pétitions, j'ai dû en signer parce que j'avais des copains qui bossaient là-bas, il y a eu même des manifestations il me semble, et je trouvais ça injuste pour ce style de musique. Puis finalement, bah, c'est ce qu'il fallait faire, parce que quelques années plus tard, une radio comme Skyrock qui marchait bien, mais qui n'était pas assez écoutée, s'est focalisée sur un seul créneau, le rap, et on voit aujourd'hui ce que c'est devenu. Par contre, la dance a mal vieilli. Alors est-ce que Maximum aurait bien vieilli?
Voilà, c'est justement la question qu'on se pose.
Ouais. Ouais, je pense que c'est une période bien définie. Bon, de toute façon, si cette radio avait poursuivi ses émissions, elle aurait évolué, elle aurait changé, elle se serait ouverte également à d'autres styles de musique, parce que la musique pour danser, elle existe encore aujourd'hui, hein, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, c'est les DJ. Aujourd'hui, elle passerait 24 heures sur 24 de Justice, David Guetta, Bob Sinclair et tous les autres. Hein, voilà, ça serait ça.
En fait, c'était le précurseur des radios thématiques.
Absolument. Je pense que c'était le précurseur des radios thématiques, mais que ce n'était pas encore accepté. Aujourd'hui, sur la bande FM, si tu veux écouter de la dance, d'ailleurs, il y a FG hein, qui marche très bien. Il ne faut pas oublier FG, qui est peut-être aussi la petite fille de Maximum, hein, et qui est une radio qui marche très très bien, qui est très bien foutue, sur le web aussi. Enfin, tu vois, ils ont un créneau bien particulier, un public vraiment fidèle. Et puis, le rap, bah, on sait où le trouver. Des radios un peu plus R&B, on sait où les trouver. Il y a Voltage, il y a même Fun un petit peu. Fun aussi, c'est un mix de dance et de R&B, là. Hein. On sent bien que toutes ces radios, elles ont trouvé un créneau, une cible. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que l'histoire de la bande FM et du public a changé, a évolué. Effectivement, peut-être qu'ils étaient les précurseurs et c'est peut-être ce qui les a tués.
Les radios évoluent, comme tu le dis. Aujourd'hui, on se rend compte que les animateurs sont vraiment casés. Ils ont
formatés.
Voilà. Ils ont un moment pour parler. Il ne faut pas qu'ils parlent plus longtemps. Aujourd'hui, les animateurs, est-ce qu'ils sont un peu gênés de cette... ou est-ce qu'ils sont plutôt nostalgiques des années 90?
Alors, ceux qui sont nostalgiques de ces années-là, je pense que c'est ceux qui les ont connus. Parce qu'aujourd'hui, un jeune garçon, une jeune fille qui veut devenir animatrice, bon bah quand elle écoute les Energy Skyrock, Fun Europe 2 et compagnie, elle sait très bien qu'il y a deux opportunités. Soit je fais du radio DJ, donc du pouce-disque. C'est un métier, il faut savoir le faire, c'est tout, c'est comme ça. soit je fais de la libre antenne. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc dans les écoles de radio comme le Studec à Paris et d'autres d'ailleurs, il y en a une dans le sud qui s'appelle One School qui est très bien, on forme les animateurs en fonction de la demande de ces radios-là. Donc soit on forme des bons radio DJ hein, qui vont dire l'heure, désannoncer, annoncer, faire des petites interventions dynamiques et rigolotes, mais de pas plus de 20 secondes, voire 15. C'est un métier. Alors ces gens-là, ils n'ont pas à être nostalgiques parce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent au marché. Ceux qui sont nostalgiques, c'est des gens par exemple, moi je suis pas nostalgique du tout, mais des gens comme moi qui ont connu ces années-là et qui se disent, et d'ailleurs moi c'est mon choix, hein, aujourd'hui je travaille sur RTL de temps en temps, je fais une animation qui est une vraie animation d'RTL, hein, c'est pas une radio musicale, mais je n'ai pas du tout envie de travailler sur une radio musicale, je n'y trouverai pas du tout d'intérêt. Je peux pas être, j'ai essayé, je suis allé sur RFM, je suis allé sur RTL2, ça m'a pas plu. Moi j'aime bien raconter des trucs, avoir une interactivité avec les auditeurs, j'aime bien l'univers des jeux, j'aime bien parler de musique sans qu'on me dise c'est trop long. Donc j'ai choisi, je le fais pas. Donc faut pas être nostalgique de toute manière, ça sert à rien, surtout quand on veut devenir professionnel dans cet univers-là. Ou alors, on essaie de trouver encore des petites radios associatives qui marchent d'ailleurs très très bien dans certaines villes et certaines régions et qui permettent de s'étaler un petit peu plus derrière le micro.
Exact. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de quelqu'un qui t'est cher, puisque quand on parle de la radio des années 90, il y a la libre antenne, et on a encore aujourd'hui d'ailleurs, il y avait une personne qui était très connue dans la libre antenne des années 90, c'était Super Nana,
ouais,
qui était ta grande copine.
Ouais.
Tu peux nous en parler un peu?
Ah ben, alors elle, c'est vraiment, là pour le coup, faut être très nostalgique, parce que ça a été une des premières animatrices, même si au départ on croyait que c'était un homme, elle avait une grosse voix, ça a été une des premières animatrices, alors on dit trash aujourd'hui, mais vraiment une de celles qui a amené en France ce qu'on appelle aujourd'hui la libre antenne, sans retenue. Parce que pendant toutes ces années-là, elle a commencé vraiment tout à fait au début, hein, c'est début des années 80. Alors là, on avait le droit de dire ce qu'on veut, le temps qu'on veut, le propos qu'on veut, avec qui on veut. Donc vraiment, elle a démarré à Paris sur une radio qui s'appelait Carbone 14, et ensuite on l'a retrouvée sur d'autres radios, notamment Skyrock. Il y avait un esprit de liberté à l'époque qu'il n'y a plus aujourd'hui quand même, grâce au CSA. Je dis grâce, hein, parce que faut quand même savoir de temps en temps que la radio, c'est un outil qui peut s'avérer être dangereux. On ne sait pas à qui on parle, ça peut choquer, ça peut... Bon, mais à l'époque, de toute façon, elle avait un rôle social très important, la radio, et Super Nana était quelqu'un de très important pour le monde de la radio, parce que justement, elle amenait les auditeurs à parler, à se confier, et des auditeurs qui étaient en phase avec ces radios-là, donc des auditeurs jeunes, qui n'avaient pas d'autres endroits où raconter leurs soucis, leurs problèmes, leurs angoisses, et tout. Donc ça a été un personnage à la fois trash et à la fois avec un très grand rôle, je dirais, social via les radios sur lesquelles elle a travaillé, parce que c'était vraiment quelqu'un qui écoutait les auditeurs, qui essayait de les élever, de leur redonner confiance, de les faire rire, c'est très important, et également de soigner des grandes solitudes. Parce qu'on faisait des émissions le soir, donc c'est souvent des gens un peu seuls qui écoutent la radio le soir. Donc voilà, alors c'était un personnage truculent, extrêmement drôle, beaucoup d'humour, beaucoup de répartie, mais qui malheureusement n'a pas suivi l'évolution de la radio. Et elle n'a voulu faire aucune concession, donc ce qu'elle faisait dans les années 80 et les années 90, lorsqu'on lui a demandé d'arrêter, pour différentes raisons, bah elle ne s'est pas dit, tiens, je vais faire un autre style d'émission. C'était sa personnalité qui passait par l'intermédiaire du micro dans les radios pour lesquelles elle a travaillé. Et cette personnalité, elle l'a gardée jusqu'à son dernier souffle. Et elle ne travaillait plus, elle allait retravailler, mais voilà, c'était un personnage un peu exceptionnel dans ce monde de la radio.
Turlututu, l'émission, ouais, avec un chapeau sur le pointu,
voilà,
une émission que tu co-animais avec elle,
ouais,
tu peux nous en parler?
Ouais, c'était marrant parce que en fait c'était l'époque où le CSA commençait à vraiment nous surveiller. Et on nous avait dit, attention, vous parlez de sexe, vous parlez de drogue, pas vulgairement, hein, mais on écoutait nos auditeurs, ils nous parlaient de drogue, de sexe, de problèmes sentimentaux, avec les mots de l'époque, quoi. On a dit, attention, le CSA écoute, si vous continuez à parler comme dans la rue, ils vont interdire cette émission. Donc on avait tout simplement changé tous les mots, qu'on n'a pas le droit de dire. Et on utilisait des mots rigolos, enfantins, ludiques, pour remplacer les mots un peu trash. Alors, turlututu, c'est le petit chapeau sur le pointu, c'était bien sûr l'image du préservatif, parce qu'à l'époque, on devait vraiment en parler énormément, même si aujourd'hui, malheureusement, on n'en parle plus assez. Nous, on a vécu, c'est les années 80, c'est pas des années drôles, hein, c'est les années sida. Hein. Et la plupart de nos auditeurs qui étaient des adolescents étaient totalement traumatisés par ça. Donc, pour nous, c'était aussi... très important de parler de comment éviter la maladie, de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à cette maladie et de pas de dédramatiser parce que c'était très très grave à l'époque et c'était vraiment angoissant quoi. On le ressentait vraiment à travers tous les témoignages qu'on avait tous les soirs en direct. Alors voilà, on avait changé les mots sur le tutu, sur le chapeau pointu, un petit chapeau sur le pointu. Ça a bien marché, très très bien marché, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu quand même un débordement et du jour au lendemain on a dit stop, vous arrêtez. Alors on est revenu à des trucs plus crudes. Oh, je me souviens plus bien, mais bon, on a joué avec la loi.
Avant de passer à un autre sujet, je voudrais qu'on parle rapidement d'une association, une nouvelle association qui s'est créée récemment, dont tu es le parrain, c'est Ciel Massup.
Ah oui. Ah mais c'est mignon comme tout, parce que bon, évidemment, lorsque Sup est parti, Super Nana, on parle toujours de la même, sa disparition a vraiment déclenché des réactions très importantes de gens pour qui elle, justement, elle avait été très importante en tant qu'animatrice, donc des auditeurs. Des auditeurs de ces fameuses époques-là, en 80-90, hein, elle a arrêté en 96. Et ces gens-là, qui étaient sans doute très jeunes à l'époque, avaient gardé un énorme souvenir de ce qu'elle leur apportait. Et surtout n'avaient jamais oublié. Donc, elle correspondait toujours grâce à Internet, aujourd'hui, hein, MySpace, Facebook, tous les blogs et tout, tout le monde est facile à joindre. Et finalement, elle n'avait jamais tellement perdu le contact avec tous ces dizaines et ces centaines de gens pour qui elle avait fait des choses. Et il y avait un tissu comme ça, amical, qui se poursuivait à travers les années, mais qu'on n'avait pas, je dis on parce que j'étais associé à ça d'ailleurs, mais qu'on ne savait pas aussi important. Et lorsqu'elle est disparue, bah là il y a eu vraiment une multitude de messages, de gens qui m'ont tout de suite témoigné leur chagrin et c'était vraiment très très important. Alors moi j'ai rien fait, tout l'entourage de Super Nana, nous on a vécu ça comme un peu un deuil quoi, mais vraiment un deuil, mais on a été très impressionnés par ses réactions. Et donc il y a un groupe d'auditeurs qui aimaient bien Sup, qui ont décidé de créer une association pour continuer à faire vivre ce qu'elle a laissé dans le monde de la radio. Donc ils ont créé un site internet avec plein d'extraits de nos émissions, que d'ailleurs Pierre Bélanger, directeur de Skyrock, leur a cédé. Parce que évidemment pour lui, Super Nana était un des personnages les plus importants de sa longue carrière dans le monde de la radio. Et il a été très touché lui aussi. Et du coup, il a autorisé à ce qu'ils utilisent nos archives. On a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est mignon, quoi, parce que les gens redécouvrent. Il y en a qui redécouvrent ce genre de radio qui n'existe plus. Moi, j'ai du mal à un petit peu réécouter parce que...
C'est dur.
Je ne suis pas dans la nostalgie, ça me gêne un peu d'écouter des trucs anciens. Et puis j'ai d'autres souvenirs par rapport à ma copine Super Nana, donc j'ai pas besoin de réécouter tout ça. Mais en tout cas, j'ai donné mon accord. Et tous les gens qui ont entouré Super Nana, aussi bien des gens de radio que de la famille ou des amis XYZ, tout le monde a vraiment validé cette idée. Et puis on verra. Pourquoi pas, avec le temps, comme ça, laisser des choses, c'est intéressant. En tout cas, elle a tellement laissé des souvenirs forts dans la mémoire des gens, c'est ça le plus important. Et puis il va même y avoir des réunions de fans, mais ça c'est vraiment très sympa, je suis très content. Voilà, donc c'est quoi d'ailleurs l'adresse?
Alors la tu me prends le cours. Tant que je me souvienne, oui, c'est www.super-nana.eu.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Ils ont un site internet qui est très très bien.
On arrive à la fin de cet entretien et avant de conclure, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant de la musique de cette année. Il y a des nouveaux courants musicaux qui arrivent, notamment la tectonique.
Ouais. Bah ouais, la tectonique. On va pas parler de Laurie alors. Ouais, la tectonique. Alors moi j'adore. Voilà, c'est tout simplement j'adore et je fais enfin un truc un peu nouveau, générationnel, joli, joyeux, même si c'est un peu speed quoi. Mais ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu un truc rigolo venant des jeunes. Parce que évidemment c'est un mouvement jeune, hein, et c'est pas ma génération, c'est même pas la tienne. Faut avoir, pour être dans la tectonique, faut avoir quoi, entre 16 et 21 ans. Bon. Musicalement, bah, c'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est la suite logique de tout ce qui est dance, techno, disco, musique électronique, on a déjà entendu ça, mais c'est festif, c'est joyeux, et puis ça englobe un look, ça englobe un style de danse, qui est vachement sympa je trouve. Et oui, effectivement, un peu un style de musique, même si c'est un peu difficile de définir ce qu'est la tectonique. C'est un phénomène de mode, il y a tout. Il y a l'image, hein, c'est en plus c'est garçons et filles, c'est ça qui est bien, ça les rapproche. Il y a une unité dans le look qui est assez marrante, quoi. On ne sait plus, les garçons s'habillent comme les filles s'habillent comme les garçons. Et il y a une danse qui est vachement jolie, moi, je trouve. Et je dis enfin, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une mode comme ça, festive, joyeuse, qui nous ramène à la dance music, parce que c'est typiquement une musique et un style du soir, discothèque, pour danser, pour se rapprocher, pour faire la fête et pour s'unir. Tout le monde, toutes les générations, depuis des décennies, il y a une catégorie à un moment donné de sa vie, et souvent c'est l'adolescence, où on a besoin d'appartenir à un groupe. Bon, bah ce groupe-là, ça y est, il existe. Et je trouve qu'il a un message qui est plutôt léger, sympa, optimiste. Donc voilà, ça durera peut-être pas longtemps. Mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai groupe, un vrai phénomène lié à une génération, et c'est toujours bien. Après, faut pas trop que ça dure, quoi. Faut pas non plus vouloir appartenir à un groupe toute sa vie. Enfin, faut s'ouvrir à tous les autres. Mais c'est normal, c'est naturel tout ça. Donc, vive la technologie.
Encore une question, comment tu vois les radios dans l'avenir ?
Bah, aujourd'hui, je ne les vois pas du tout, les radios, dans l'avenir. Moi, ce qui est là, ça y est, elles n'ont aucun avenir, les radios. Elles sont déjà... Enfin, elles n'ont aucun avenir. En dehors du fait que ça marche plutôt bien, là, le monde de la radio. Ça y est, on est sur une bande FM qui est extrêmement structurée. Ça y est, on a atteint la structure normale. On disait toujours qu'on était en retard par rapport aux Américains à l'époque. Maintenant, ça y est, on est comme eux. Quand on veut du rock, on sait où le trouver. Quand on veut des radios d'info, on sait où les trouver. Quand on veut des radios intello, on sait où les trouver. On a tout ce qu'il faut, c'est merveilleux. On est un pays privilégié pour ça. Moi, je voyage beaucoup. Je peux dire que c'est pas dans tous les pays qu'on a autant de diversité musicale sur la bande FM. Je suis heureux de voir et de constater que les radios associatives persistent avec beaucoup de difficultés, mais elles doivent continuer. Mais il y a des collèges joyeux, il y a des radios, des petites radios rock en province, des petites radios dance en province et à Paris. Il faut aider ces gens-là, continuer à les écouter. Il n'y a pas... L'avenir n'est pas très intéressant. Ça va continuer comme ça, il n'y a rien d'excitant. En revanche, l'avenir, c'est les web radios. C'est ça, et puis c'est même pas l'avenir d'ailleurs, c'est le présent. Ce que ça va devenir, les web radios, j'en sais rien. J'espère que justement, elles ne vont pas s'uniformiser et devenir... oublier leur esprit de liberté. Il faut garder ça dans le ton, dans l'envie, dans la passion. Il faut garder ça. En tout cas, c'est le présent. Qu'est-ce qui va succéder au web radio? J'en sais rien. Mais l'avenir proche, c'est le développement, je l'espère encore un peu, et la professionnalisation, et surtout aussi plus nous, en tant qu'auditeurs, on aura un matériel facile, et perfectionnée pour recevoir ces radios chez nous dans de bonnes conditions, plus ça permettra à ces radios de se développer. Donc voilà, le présent, l'avenir, c'est les web radios. Il faut qu'elles continuent à se battre pour rester indépendantes, pour ne pas rentrer dans des formats, pour ne pas copier celles de la bande FM, ça sert à rien du tout, et pour continuer à être original, surtout. Ne pas faire comme la voisine ni le voisin.
Laurent Petit-Guillaume, le mot de la fin ?
Bah, le mot de la fin, c'est rester fan de dance music, parce que c'est sain. Continuer à permettre à une nouvelle génération de connaître ce genre de musique, parce que c'est toujours bien de voir d'où on vient, de connaître le passé, mais regarder devant aussi, penser à l'avenir.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette centième de Dancehall, et puis peut-être à la 200e.
Eh ben, je te le souhaite en tout cas, et à bientôt sur Future Radio.
Merci beaucoup.